Il est avec nous de midi jusqu'à vers midi 25. Il sera avec nous vendredi dans le segment de discussion avec Farnell Morisset. Ça, c'est à compter de midi 5. Lambert, si tu le veux bien, on va commencer en faisant écouter Christine Fréchette il y a deux semaines et Christine Fréchette aujourd'hui concernant le programme Expérience Québec pour les immigrants.
Donc, voilà, c'est pas envisageable d'appliquer une clause grand-père. Malheureusement, je sais bien que ça passe bien dans les médias, le terme a l'air simple, mais dans les faits, la mécanique ne le permet pas. La seule mécanique qu'on peut mettre en place, c'est de faire en sorte d'orienter les gens vers le PSTQ, et puis là, on va accélérer la cadence pour les retenir puis les inviter.
Maintenant, ce matin, à l'Assemblée nationale.
Okay. Donc, vous mettez de la pression sur M. Robert. Est-ce qu'on peut attendre deux mois que la course soit terminée pour faire ces changements-là ou s'il faut les faire rapidement? Parce que les maires, en fin de semaine, les autres, ils ne voulaient pas attendre deux mois. Ils voulaient que ce soit rapide, qu'on puisse, stabiliser l'avenir de ces gens-là rapidement.
Moi, ma proposition, c'est sûr, elle s'inscrit dans le cadre de la course à la chefferie qui culminera le 12 avril prochain. Donc, c'est à partir de cette date-là où je m'engage à réactiver
Est-ce que vous souhaitez que M. Roberge aille plus vite?
Madame Fréchette, est-ce que vous avez parlé à Jean-François Roberge pour lui proposer votre solution? Est-ce que vous lui en avez parlé et est-ce qu'il est ouvert?
On a des échanges très réguliers, on collabore très bien. Il était au courant que j'étais en réflexion. Je ne lui ai pas demandé d'endosser quoi que ce soit. Il fait sa route. C'est sûr qu'il a ses responsabilités.
Est-ce
que vous
avez toujours l'appui de M. Fréchette et de M. Roberge? Vous toujours son appui, M. Roberge?
Moi, je fais cette proposition-là dans le cadre de la course à la chefferie. Donc, c'est à partir du moment où je serai chef de la CAQ.
Alors, mon ami Lambert, après avoir accueilli Jean-François Roberge dans son équipe à titre d'appui et d'avoir dit « il n'en est pas question qu'on revienne sur la décision du PEC », on y va avec le programme spécialisé pour les travailleurs qualifiés. Christine Fréchette, hier, a fait volte-face. Elle a dit « il y aura », puis là, c'est pas ses termes, là, mais il y aura en quelque sorte une clause grand-père qui va permettre aux gens de d'intégrer à titre d'immigrant permanent la société québécoise via le PEC et ça place Jean-François Roberge dans une très, très drôle de situation.
Oui, c'est ça. Elle dit en fait qu'elle va étendre le PEC pour une durée de 2 ans supplémentaires puis niveler vers le bas la balance, dans le fond, en termes pour qu'on demeure au même niveau d'immigration. Au final, Jeff, ben honnêtement, prend la bonne décision.
Ah, oh, ça, c'est clair.
Elle prend la bonne décision, puis écoute, ça montre à quel point la pression est tellement grande. Puis je l'ai déjà vécu quand t'es au gouvernement, quand t'es à l'interne. Puis t'as tous les acteurs de la société, ou en tout cas presque, là, qui s'embarquent sur un dossier comme celui-là. Là, les syndicats, le patronat, les médias. La chaleur devient très, très grande. Et je pense que c'était devenu inévitable pour Mme Fréchette d'un peu changer son fusil d'épaule. Mais c'est là qu'on voit que les appuis de la part des ministres, c'est d'abord et avant tout, évidemment, quelque chose qui est bon parce que ça envoie le message que tes collègues sont derrière toi, mais c'est un couteau à double tranchant, tu sais. On s'entend que si c'était pas de Jean-François Roberge, la position qu'elle a prise hier aurait été celle qu'elle aurait prise depuis le tout début, là. La seule raison pourquoi ça n'a pas été le cas, c'est que il y avait certainement un malaise là, par rapport à la position de M. Roberge. Et là, quand elle dit qu'elle ne l'a pas informé, ça aussi, là, M. Roberge j'ai parlé à son équipe.
Oui, puis il n'a pas réitéré son appui là, ce matin là, face aux journalistes à l'Assemblée nationale. Là.
Non, je pense qu'il va prendre le temps de laisser la chaleur un petit peu baisser. Mais ils m'ont dit qu'il avait été vraiment surpris Jean-François, je parle de Jean-François Roberge et je parle de Jean-François toi aussi. c'est ça, il a appris au début de la période des questions, d'autant plus alors que Mme Fréchette n'était pas sur place, fait que lui a dû faire face aux questions de l'opposition là-dessus. Évidemment, le timing, n'était peut-être pas idéal, mais c'est sûr que écoute, politiquement, c'était rendu extrêmement difficile à défendre sa position. Donc, pas nécessairement surpris de l'avoir en arrivé là. Puis, bien honnêtement, c'est une première décision pour elle qui est assumée, qui est tranchée. Puis ça, je pense que c'est très bien aussi. Je pense qu'il y a des gens qui attendaient ça de sa part. Mais c'est là qu'on voit aussi le risque qui vient avec le fait de ne pas proroger Jeff, là.
Ah, vraiment? Parce que, écoute, je te fais écouter André Morin, député de l'Acadie du côté du Parti libéral du Québec, qui s'est amusé ce matin lors de sa longue question à Jean-François Roberge.
La députée de Sanguinette hier, sans aviser le ministre, a porté un jugement lapidaire sur le travail de celui-ci, déclarant que l'immigration doit être mieux planifiée, qu'il faut rétablir la confiance, que celle-ci doit être juste, prévisible, humaine, accueillante et qu'il faut être rigoureux. Bref, ce qu'on n'a pas en immigration. Madame la Présidente, dans ce gouvernement-là, c'est la pagaille complète. Là, tout à l'heure, le ministre a déclaré, et c'est sur le site de M. Bovet, qu'il demanderait différents scénarios de transition pour le prochain premier ministre. Alors, après s'être peinturé dans le coin, là, il est obligé de marcher sur la peinture. C'est inconfortable, très inconfortable. Mais est-ce qu'on peut attendre au 12 avril? Il y a un gouvernement en face de nous, bien, qui gouverne. Les entreprises, elles, ne peuvent pas attendre, puis il y a des gens qui partent. Madame la Présidente, une clause de droit acquis.
Et ça, c'était après que Marc Tanguay se soit amusé aux dépens de François Legault. La CAQ faisait pitié à matin, là. François Legault et Jean-François Roberge qui continuent dans leur position, alors que les deux candidats à la chefferie disent « Hey, ce que vous avez fait en immigration, nous autres, on scrape ça. Ça n'a pas de sens, là. »
Rajoute à ça toute la semaine dernière où je ne sais pas combien de fois ils ont dit le député de Lévis par rapport à Bernard Drainville, puis évidemment dans sa conférence de presse de lancement qui avait mis de côté plusieurs des positions défendues par M. Legault. C'est ça, c'est un autre exemple qui montre à quel point la prorogation, puis on va expliquer aux gens là, qui ne savent pas exactement c'est quoi, pour être bien sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais prorogation, c'est de mettre la session parlementaire sur pause, là, de mettre fin à tout ça en attendant le nouveau chef, le nouveau PM, là, pour une nouvelle session. Mais là, évidemment, ça impliquerait de mettre fin à l'étude des projets de loi qui sont présentement en cours. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas proroger en raison de ça, en raison des projets de loi majeurs que le gouvernement veut continuer d'avancer, qui sont portés par des ténors de ce gouvernement-là. Simon Jeannin Barrette avec le projet de loi de constitution, avec toujours l'enjeu de la clause par rapport à l'avortement là-dessus. Jean Boulet avec le projet de loi sur la gouvernance syndicale. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils ont voulu, qu'ils refusent de proroger. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'interne qui ne voulaient pas proroger puis qui se rendent compte de à quel point c'est compliqué là, de se gouverner dans cette situation-là. Alors
c'est parce que Lambert, corrige-moi, mais à 11% dans les sondages, à zéro député qui était élu selon Québec 125, autant Bernard Drainville que Christine Fréchette ne pouvaient pas se positionner dans la continuité. Fait que c'est sûr que le feu allait pogner, là.
Bien, c'est ça. C'est exactement ça. Puis là, c'est une décision déchirante pour le premier ministre qui, d'un côté, a ses projets de loi menés par des ténors de son gouvernement qui sont derrière lui depuis longtemps. Et de l'autre côté, bien, de dire « ça n'a pas de maudit bon sens, la situation qui se passe présentement. On ne pourra pas continuer comme ça ad vitam aeternam. Là, ça ne pourra pas être ça comme ça jusqu'au 12 avril. Sur certains dossiers, on se prononce. Sur d'autres, on ne se prononce pas. Puis là, la position dans laquelle ils sont, c'est intenable. Tu sais, à l'intérieur de leur propre gouvernement, tu as des gens qui disent qu'ils feraient quelque chose de différemment. Puis là, pour ces personnes-là aussi, là, au niveau du dossier, ces personnes-là qui attendent la régularisation de leur dossier, je veux dire, sachant que la finalité va nécessairement être une autre position que celle qui est tenue présentement, comme les deux candidats à la chefferie ont une position différente, mais là, t'attends-tu vraiment deux mois jusqu'à temps, tu sais, avant de faire le changement, deux mois où est-ce que des gens sont dans un petit peu une situation très instable, pas nécessairement évident. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens présentement, Jeff, qui se rendent compte à quel point que la prorogation, le fait de ne pas proroger, ben, ça vient avec des défis qui sont immenses. Puis les gens se rendent compte aussi que la dynamique a changé, je te dirais. Là, quand tu gouvernes, puis soudainement, tu as une course à la chefferie à l'interne, alors que tu es habitué d'avoir tout le monde qui pousse dans le même sens, celui du parti, ben là, tu deviens comme dans une situation où même à l'interne, tu as des gens qui choisissent un côté, l'autre de l'autre. Ça crée une ambiance, disons, qui est particulière.
Mais s'il avait fait le choix, par exemple, de tout mettre sur pause, par contre, ça aurait été très mal reçu du peuple québécois en général, là, si je ne me trompe pas.
Non, je pense pas que ça aurait été mal reçu. Rappelle-toi, Justin Trudeau l'avait fait de son côté quand il avait amorcé un processus similaire à celui que M. Legault fait présentement. Fait que c'est vraiment, il y a des projets de loi auxquels ils tiennent, particulièrement celui sur la gouvernance syndicale. Mais comme je le dis présentement, c'est une situation tellement unique avec une course à la chefferie, mais du parti au gouvernement, pour un gouvernement qui est très, très impopulaire. Alors, je peux pas croire effectivement qu'ils vont continuer comme ça pendant encore deux mois. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils n'auront pas le choix. Le PM, par contre, M. Legault, lui, je suis bien certain qu'il ne veut vraiment pas proroger. Et c'est là qu'on verra à l'interne est-ce que, disons, certaines personnes vont réussir à le convaincre d'éventuellement proroger. Si j'avais à mettre un petit 2$, je dirais qu'il y aurait une qui vont essayer d'adopter les projets de loi auxquels ils tiennent mordicus le plus rapidement possible pour proroger et mettre fin à cette espèce de scénario de théâtre d'été clownesque que l'on voit à l'Assemblée nationale dans les derniers jours.
Une petite prorogation à semaine de relâche scolaire, là, ça serait bienvenu. Hey,
je pense que oui.
Ouais, c'est ça. Parlant de feu qui brille, le feu est pris avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec et on écoute France-Hélène Duranceau qui a été bombardée de questions dans les corridors de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes prêt à maintenir la ligne dure comme vous avez fait l'automne dernier avec les médecins?
On souhaite arriver à une entente le plus rapidement possible. Ceci dit, il faut qu'on respecte les contraintes qu'on a de part et dans le corridor.
Mais est-ce qu'il y a une volonté quand même de garder un écart entre la rémunération des spécialistes et des
amis? On a toujours dit qu'on voulait rendre la médecine familiale plus attrayante. Alors, effectivement, il y a un écart qui doit être maintenu.
Donc, 17 % c'est trop pour les spécialistes. C'est 17 %.
Parce qu'on revient, on garde le même écart. C'est...
Là, je vous laisse conclure sur ça.
Le problème serait les dollars, Lambert Drainville, parce que la Fédération des médecins spécialistes du Québec ont dit « Bah, vous avez donné 17 % aux omnipraticiens. On va prendre 17 % nous autres aussi, mais le gouvernement veut réduire l'écart entre les médecins généralistes et les spécialistes pour envoyer plus d'étudiants en médecine de famille. » Aïe, 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 c'est pas fini, cette guerre-là. Là.
C'est pas fini, puis le rapport de force, malheureusement, est plus le même que quand les médecins de famille ont signé. Puis c'est là où est-ce que, la Fédération des médecins spécialistes, de ne pas se coller nécessairement sur les médecins omnipraticiens, ça aura peut-être été une erreur stratégique, on le voit aujourd'hui, parce que là, tu sais, le gouvernement a réglé le dossier qui était le plus urgent, c'est-à-dire les médecins de famille, les médecins qui ont une liste de patients à leur charge et quand ça s'est mis à chauffer, que les gens ont commencé à avoir peur de perdre leur médecin, on se rappellera que c'est à ce moment-là que l'opinion publique a changé de bord en même temps que la fameuse loi 2. Eh bien là, pour ce qui est des médecins, malheureusement, spécialistes, le rapport de force a complètement changé parce que depuis qu'ils ont signé avec les médecins de famille, qu'est-ce qu'on dit dans les médias? Que le gouvernement a reculé sur toute la ligne, qu'il a perdu sur toute la ligne. Le gouvernement, à ce niveau-là, n'a plus grand-chose à perdre. Et la patience des gens, je pense, envers les possibles moyens de pression des médecins, c'est ma lecture de la chose, puis tu me diras ce que tu en penses, arrive à ses fins. Là. Je pense qu'à un moment donné, les gens, là, ils en ont un petit peu leur casse de bain, là, de...
Déjà que l'élastique était très étiré avant les fêtes.
Oui, puis surtout que le gouvernement a fait d'énormes concessions, a remis énormément d'argent dans les poches des médecins de famille. Alors, c'est une situation qui est un petit peu délicate pour les médecins spécialistes et en rétrospective, c'est à se demander si, comme je le disais, ils n'ont peut-être pas opté pour la bonne stratégie de faire une négociation complètement distincte de celle des médecins de famille.
Lambert Drainville, je termine cette excellente chronique. Et pour rappel, Lambert Drainville est dans le caucus aujourd'hui, mais sinon les mercredis, c'est à 13h10 et les vendredis avec Farnel Morissette à compter de 12h05. Je veux savoir quel est ton capital de sympathie envers cet homme.
Puis je vous remercie de votre indulgence à mon égard. Je ne suis qu'un être humain bénévole qui passe sa vie depuis un an à essayer de s'assurer que les faits soient là. Alors, je commence. Alors, moi, comme je vous disais, je ne suis pas là pour... Même Bertrand vous l'a dit, je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas vous dire comment je sens. De toute façon, je suis sûr que vous le savez déjà. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est les faits. Parce que la commission a passé son temps à dire « Il y a des milliers de documents, on est extraordinaire, on a passé au travers, on comprend. » Mais on peut raconter un peu n'importe quelle histoire aussi quand il n'y a pas le fil d'Ariane qui fait le lien entre tous ces éléments-là.
1h30 à renifler, à s'essuyer les yeux, à parler qu'il est un simple homme bénévole. À ta minute, il était payé plus de 250 000 $ à la SAC. Moi, mon capital de sympathie est à moins 1000, je le sais pas pour toi, envers Karl Malenfant, mais j'ai aucune sympathie envers quelqu'un qui a fuck-allé le système puis qu'on paye 1,1 milliard pour un système qui fonctionne pas.
Jeff, j'ai l'impression de voir un gars dans sa piscine... essayer de la vider à coups de verre d'eau puis d'attendre que le niveau de l'eau baisse. Puis là, il prend le petit verre d'eau puis il tire l'eau en dehors de la piscine.
Là, voyons, je vais-tu y arriver?
Voyons, tu sais. Hey, j'ai un principe en communication, Jeff, c'est quand t'es pris pour t'excuser, quand t'es pris pour devoir organiser des... Rappelle-toi, là, les webinaires du ministre de la Santé, M. Dubé, ben là, quand t'es pogné pour être là une heure et demie avec ton PowerPoint, tu présentes des courriels, écoute, sur une... T'sais, un nombre d'années incalculable avec écrit en petits caractères. Ouais. Écoute, quand je me suis connecté, il parlait de ces deux opérations aux hanches. Là,
ouais, non, c'est ça, mais attends une minute, Lambert, c'est pas fini. Attends, pauvre Carl Malenfant.
Le contexte, ça a été plus difficile que j'aurais pensé, mais tout a été déclenché, comme vous le savez, par le rapport du VGQ. Je recommencerai pas ce que M. Bertrand disait, mais oui, je peux vous dire que sur la place publique, même dans une salle d'attente chez mon médecin, quand ils ont mis au micro M. Malenfant, sale, je ne sais plus quoi, je me souviens encore de ce moment, une dame dire c'est lui le voleur. OK. Ça a été un moment difficile.
Ah là, j'ai versé, à ce moment-là, j'ai versé une larme.
Non, mais tu sais, pour de vrai, ça ne doit pas être facile, humainement parlant. On s'entend, mais tabarouette, mets-toi dans la peau des gens dans cette salle-là. C'est sûr que là, t'es assis à la clinique et t'entends dans les speakers. Monsieur Malenfant est appelé dans le bureau de docteur je sais pas quoi au bureau C, puis là tout le monde qui doit faire pas le Malenfant oui. En pleine commission galant, c'est sûr qu'il fallait pas qu'ils s'attendent à une réaction autre que ça. Mais écoute, c'est ça, c'est une grande séance de ballet canadien pour essayer de du mieux qu'il peut de changer de quelque façon que ce soit le narratif en prévision du rapport du juge Galant qui va paraître lundi prochain. Ça en dit long sur à quel point il s'attend à être identifié comme un des grands responsables du fiasco. Et là, il essaye de changer le narratif de quelque façon que ce soit. Malheureusement, le narratif va être décidé par le rapport du juge Galant. Et le rapport du juge Galant, il est déjà écrit. Alors, je le voyais avec son PowerPoint, là, puis je me disais, on comprend rien, M. Malenfant, on comprend rien. Puis, encore une fois, je le regardais aller. Et j'avais l'impression, JF, d'un gars qui essaye de faire baisser le niveau de sa piscine avec son verre d'eau.
Oui, puis tu fais bien de dire du mieux qu'il peut, parce qu'honnêtement, je sais pas qui a réussi à convaincre avec ça. Puis je sais pas c'est qui lui a conseillé de faire ça, puis qui lui a dit « Oui, vous avez des chances de convaincre quelqu'un. » C'est plus non, ridicule impossible. Que d'autres choses.
Ouais, tu sais, ben honnêtement, j'aurais sauvé tout l'argent que ça a dû coûter en frais d'avocat, toute la préparation de ça, puis je pense que je m'aurais pris comme une semaine dans le sud, quelque chose, juste pour partir d'ici, puis pas entendre parler de cette affaire. Pas sérieusement, humainement, ça aurait été absolument terrible pour ce monsieur-là, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, tu as des responsabilités quand tu es dans une position d'importance comme ça, puis on doit demander plus de redevabilité aux gens qu'on paye des centaines de milliers de dollars annuellement directement de nos taxes et nos impôts, qu'il fasse un bien meilleur job que ça. Et, c'est plate, mais il récolte ce qu'il a semé.
Exactement, t'as entièrement raison, Lambert Drainville. Lambert, on se parle vendredi avec Farnell?
Oh yes! C'est toujours un grand plaisir, les vendredis avec Farnell.
Oh yes, merci, c'était une excellente chronique, mon chum, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bien, bye-bye. Lambert Drainville, que vous pouvez entendre sur nos ondes les mercredis, normalement, aux alentours de 13h10, et les vendredis à midi avec Farnell Morisset. Après cette courte pause, on va aller parler à Alex Boissonneau, qui est en chicane avec le maire Marchand concernant les seuils d'immigration pour Québec. Mais avant, Mathias, il y a de la circulation.
Oui, juste vous dire, présentement, Robert Bourassa en direction nord, à hauteur de boulevard Le Bourgneuf, la voie de droite qui est présentement bloquée. Là, c'est un accident, puis le remorquage est en cours. Par contre, ça crée un ralentissement dans le secteur, forcément, là, entre Le Bourgneuf, présentement, puis Capitale, que ça se passe sur Robert Bourassa. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
On continue sur le dossier de l'immigration avec Alex Boissonneau, député d'Arthabasca pour le Parti québécois. Dans un instant, à On en jase sur boulevard 102.1.